Alors Isabelle, après avoir rencontré Emmanuel Tréhard, Nicole Fernandez, à propos de ce qui a existé jusqu'à maintenant concernant la distribution, eh bien, nous avons rencontré Patricia Payot qui, elle, pour la première fois dans le cadre du festival, s'occupe réellement de marché.
Alors oui, effectivement, Patricia Payot s'occupe du marché du film. Et cette année, il avait été mis en place un programme 91. Alors la pratique du marché avait déjà été mise en place en 90 et les résultats encore obtenu, achat de programmes de fiction, documentaires, de courts-métrages, distribution même de longs-métrages en circuit commercial. C'est vrai que le festival s'était proposé cette année, dans le programme 81, de reprendre certains films qui avaient été en compétition les années 89 et 90, ainsi que les autres sections, les femmes arabes, les femmes noires, les femmes asiatiques, femmes de l'Est, les portraits, etc. Alors, Patricia Payot va nous raconter finalement quel est vraiment son travail.
Patricia Payot, vous commencez cette année une tâche toute nouvelle qui est celle de vous préoccuper de faire vendre les films qui sont présentés ou qui ont été présentés au Festival du film de femmes de Créteil. Alors, peut-être si vous pouvez nous expliquer comment vous êtes arrivée à cette proposition qui n'existait pas dans les sessions précédentes du festival.
Oui, à la suite du travail que j'ai fait pendant 2 ans au festival, qui était de faire la recherche des films pour la compétition, de savoir qu'on reçoit à peu près entre 600 et 700 films pour le festival, qu'il y en a à peu près 50 qui sont sélectionnés. Déjà que ces 50-là n'ont pas toujours un avenir et que c'est un petit peu dommage quand même. Et puis aussi que dans tout ce volume de films, il y a aussi des choses qu'on aime bien et qui sont un petit peu du coup oubliées, et j'avais envie quand même d'essayer de faire quelque chose pour ces films. Donc c'est parti de ce désir-là. J'avais commencé déjà donc l'an dernier à faire un travail auprès des acheteurs, surtout de télévision française, pour les films qui étaient en compétition. Et comme le résultat avait été assez positif, même plutôt très positif, j'ai décidé de continuer cette année et d'élargir un petit peu donc à des films qui n'ont pas été retenus pour la compétition, mais qui présentent quand même un intérêt. Et puis j'ai essayé de travailler autour de thématiques qui étaient déjà qui sont les grands thèmes en fait du festival, à savoir découverte de cinématographie de continents. Donc j'ai repris le travail qu'on avait fait sur les femmes noires, les femmes arabes, les femmes latino-américaines, cette année sur les femmes asiatiques, en essayant d'enrichir ce travail en fait par les choses qui ont été produites pendant ces dernières années. Et puis une série aussi de portraits de femmes, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui nous sont présentées chaque année qui sont vraiment intéressantes, de femmes, soit des femmes politiques, soit des femmes artistes, soit des femmes aussi qui se battent pour un petit peu pour le combat des femmes.
Mais très concrètement, quand vous dites j'ai préparé ou j'ai essayé de suivre l'année passée, ça a bien marché, comment se passe cette relation avec les acheteurs? Vous disiez c'est les télévisions qui sont les acheteurs potentiels le plus fréquents.
En termes d'achat, oui, bien sûr, ce sont les télévisions. Après, on fait aussi tout un travail évidemment avec toutes les associations de femmes qui existent dans le monde, tous les professionnels qui viennent au festival et qui sont intéressés par reprendre certains films, les montrer dans leur pays. Donc c'est à la fois l'aspect, disons, commercial, parce que je pense que c'est important pour un festival de cinéma de pouvoir donner une suite, donner une vie au film. Si le film peut être vu par des téléspectateurs, c'est quand même très important, parce que c'est une bonne promotion et ça permet éventuellement à la réalisatrice de pouvoir faire le film d'après. Et aussi, bien sûr, tout un secteur qui n'est pas forcément directement commercial, mais qui permet aussi de faire voir les films par un plus grand nombre de gens.
Les télévisions, elles achètent une copie et les associations de femmes aussi, ou bien elles demandent un visionnement par rapport à leur pays pour en faire une distribution momentanée? Quelle chance, disons, qu'est-ce qu'on appelle la commercialisation d'un film à ce moment-là? Et qui gagne la réalisatrice? Comme vous disiez, elle peut éventuellement faire son film suivant, mais pourquoi? Parce qu'on lui achète ses copies, on lui distribue, elle a des entrées, comment ça se passe?
Oui, c'est rarement des achats de copies, mais disons, ce sont des achats de droits pour une diffusion, en tout cas dans le cadre de la télévision, c'est ça. Hein, ce sont des achats de droits pour un passage, 2 passages ou 3 passages, ça dépend du type de contrat, sur une télévision. Par contre, pour ce qui est de la reprise, par exemple, dans un autre festival, ça, c'est beaucoup plus des arrangements de gré à gré. Il y a quelquefois des films qui sont loués, mais très souvent, de toute façon, le festival, c'est le lieu où les réalisatrices peuvent faire la promotion de leurs films. Donc très souvent, elles viennent avec leurs films, mais elles ne touchent pas d'argent sur cette présentation. Alors bien sûr, pour les longs métrages fiction, il y a aussi la possibilité de trouver une distribution en salle. Donc là, évidemment, il y a achat de copies, il y a tirage de nouvelles copies, sous-titrage du film, et puis, dans le meilleur des cas, des choses qui reviennent sur les entrées en salle.
Et ça se passe ?
Ça se passe, malheureusement, pas assez, mais bon, c'est arrivé quand même l'année dernière, où il y a le film Le syndrome asthénique de Kira Muratova, qui a été acheté par un distributeur en France et qui vient de sortir juste cette semaine sur les écrans parisiens.
Et puis, vous faites tout ce travail en relation avec la France uniquement, ou bien est-ce qu'il y a justement, vous avez des antennes dans d'autres pays ? Parce que vu le nombre de réalisatrices de tous les pays qui circulent et qui viennent présenter leur travail à Créteil, vous êtes en contact aussi avec un circuit commercial dans les autres pays ?
Alors, circuit salle, non, mais par contre, télévision, oui, je suis en contact avec des télévisions en Grande-Bretagne, en France. Et bon, là, disons, c'est le travail un petit peu que je me donne dans les années suivantes, c'est de développer un petit peu ces rapports. Parce qu'il est évident qu'on ne déplace pas un acheteur d'une chaîne de télévision juste en lui envoyant un petit programme. Ça suppose d'aller rencontrer les gens, de leur présenter le travail, puis de de les attirer aussi pour venir à Créteil. Donc ça demande aussi un engagement de la part du festival, un investissement, et bon, et donc ça va se faire progressivement.
Avec la crédibilité qu'a acquis petit à petit le Festival du film de femmes de Créteil au cours des années, cette 13e session cette année, est-ce qu'il n'y a pas eu des démarches naturelles de ces gens-là, dans le sens que c'est eux qui ont eu confiance et qui sont venus voir ce qui s'est passé, ou c'est vous qui avez toujours dû faire la démarche vers eux ?
Non, je crois qu'il y a des positions un petit peu différentes suivant le type de professionnel. Je dirais qu'il y a des professionnels qui sont avant tout des cinéphiles ou des gens qui sont curieux, qui aiment découvrir des choses différentes. Donc ces gens-là, c'est évident, ils sont intéressés par le festival depuis longtemps, ils viennent et ils savent que là, ils vont pouvoir trouver des choses qui sortent un petit peu des circuits ordinaires. Mais pour les autres, je dirais, surtout pour les majeures compagnies, eux, ils n'ont pas, je veux dire, si on doit leur présenter un film, il faut leur apporter la copie. Ils font ça en projection privée. Disons, le fait, par exemple, de voir un film dans une salle, de voir les réactions d'un public, moi, ce que je pense que c'est intéressant pour un distributeur, ça ne les concerne pas, ça ne les intéresse pas. Et on a quand même beaucoup de mal à travailler avec les grandes, avec les majeures compagnies. Pour l'instant, ça ne s'est jamais produit. Mais moi, je ne désespère pas de le faire. Mais je pense que c'est un travail de longue haleine et de contact aussi, disons, plus personnalisé à développer.
Qu'est-ce qui fait que ces gens-là ne s'intéressent pas ? Est-ce qu'ils se méfient de l'étiquette de film de femme ?
Pour certains, oui. Mais je crois aussi que c'est plus parce qu'on ne se connaît pas, en fait. Moi, je crois vraiment à ça. Parce que, disons que film de femme, c'est évidemment pour certaines personnes une barrière, mais je crois que cette barrière, on peut la dépasser. On l'a déjà dépassée, par exemple, vis-à-vis des télévisions. Et je pense qu'on peut la dépasser aussi au niveau des distributeurs. Simplement, je pense que c'est un travail d'information, de contact, et je crois que ça prend du temps aussi pour le faire.
Est-ce que c'est les réalisatrices qui viennent vers vous aussi pour vous demander d'essayer de faire circuler leur film ? Quel contact avec les réalisatrices elles-mêmes vous avez dans ce travail de commercialisation ? Est-ce qu'elles sont intéressées ? Est-ce qu'elles ont envie de travailler en collaboration avec vous pour que leur film circule ?
Ça dépend des cas. Je dirais que il y a pas mal de réalisatrices quand même qui sont venues me voir pour me demander qui était là. Bon, moi, j'essaie aussi de les mettre en contact direct avec les professionnels qui sont ici, de façon à ce qu'elles puissent, elles aussi, parce que je crois vraiment que c'est un travail qui passe par le contact. Et je crois que c'est bien. Il y a des attitudes, hein, je dirais. Il y a des réalisatrices qui sont là et qui sont vraiment fonceuses, qui vont voir... qui essaient de rencontrer le maximum de gens, de développer des contacts, qui ont du matériel, qu'elles mettent dans les casiers. Et puis il y en a d'autres, elles viennent au festival, elles viennent présenter leurs films, elles n'ont pas forcément cet intérêt. Je dirais que ce sont plutôt les réalisatrices qui se sont coltinées les problèmes de production, en fait, qui ont plus cette attitude-là.
Dans le sens qu'elles ont déjà ras-le-bol des problèmes d'argent et qu'elles respirent après la production de leur film.
Voilà, et elles ont envie d'en faire un autre et elles savent très bien que ça passe aussi par des contacts pour y arriver. We'll be right back.
disiez tout à l'heure, votre travail, il est tout récent dans le festival. Ça fait que cette année que vous avez commencé. Quelle importance l'organisation générale du festival donne à votre travail? Parce qu'on sait que ça fonctionne, il y a une petite équipe permanente, puis des gens qui travaillent tout le long de l'année. Est-ce que d'emblée, on a donné de l'importance à ce travail dans l'organisation du festival?
Disons qu'en termes théoriques, je dirais que, bien sûr, on pense que tout le monde pense que c'est important. Mais en termes budgétaires, disons que c'est un peu plus difficile. Donc, c'est vrai que mon travail, il se fait dans un temps limité, trop limité, je trouve, pour moi, parce que je n'ai pas vraiment le temps de le faire complètement, comme je pourrais le faire si j'avais d'autres moyens. Bon, mais je crois aussi que c'est peut-être justement les avancées qui vont se faire par le marché même, qui vont développer, disons, l'activité du marché. Mais pour l'instant, il faut savoir aussi que c'est une activité qui ne rapporte rien et qui coûte quand même de l'argent. Donc c'est évident, en plus, avec les restrictions budgétaires qu'on a eues l'année dernière et les difficultés financières qu'on traverse, qu'on ne donne pas à ce secteur... toutes ces possibilités, disons, potentielles. Hein. Mais ça, c'est aussi lié à des questions de budget.
Pour qu'on se fasse une idée, certaines travaillent à plein temps, d'autres à 6 mois, 4 mois. Quelle importance accorde-t-on, quel temps donne-t-on au marché actuellement dans l'organisation?
Dans l'organisation, on donne 2 mois au marché. Bon, en fait, en réalité, j'ai travaillé 4 mois. Disons que je me suis arrangée pour travailler sur un temps d'un autre travail pour pouvoir quand même avancer. Mais c'est sûr que c'est un travail qui demanderait à peu près 6 mois aussi, quoi.
Et les résultats que vous avez déjà eus jusqu'à maintenant vous laissent penser que vous arriverez à les persuader de rallonger ce temps accordé au marché?
Ben, disons que ça va être une, ça va être une bataille. Enfin, là, je pense qu'on va faire le bilan la semaine prochaine. Et puis, c'est vrai qu'il va falloir faire ce bilan-là aussi, quoi. Savoir que je pense que si j'avais eu plus de temps, j'aurais pu faire plus de choses aussi. Ça, c'est évident.
Mais vous pensez que c'est un bilan positif malgré tout cette première année?
C'est un bilan positif, et en plus, moi, quand j'ai proposé ce projet à l'équipe du festival et au sein du festival, j'ai bien spécifié aussi que c'était un travail à long terme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comme ça, magiquement, au bout d'une année, avoir tous les distributeurs qui vont arriver. Bon, en plus, cette année, on est assez mal placé parce qu'on a une semaine du marché TV à Cannes. Donc tout le monde prépare le MIP TV, et puis bon, il n'y a pas vraiment, les distributeurs ne sont pas vraiment venus, donc c'est plutôt moi qui vais la semaine prochaine aller les voir, leur envoyer des choses. Et c'est vrai que c'est aussi un travail à long terme, puisque c'est développer des contacts et puis amener certaines personnes aussi à venir au festival qui ne sont jamais venues. Et ça, c'est un travail, je dirais, un petit peu souterrain, diplomatique, bon, qu'il faut le temps de faire. De même, les contacts que j'espère pouvoir développer maintenant avec les télévisions européennes. Bon, cette année, j'ai pris des contacts plus spécifiques avec Channel 4 et la BBC. L'année prochaine, je vais essayer de travailler plus avec l'Espagne, l'Italie. Bon, disons que tous les ans, je me donne une petite tâche à faire de ce côté-là aussi.
Femmes journalistes. a attribué à l'unanimité son prix au film allemand Le temps enfermé de Sibylle Schoenemann.
Verriegeltezeit, donc le temps enfermé, plutôt la distributrice préférait le temps verrouillé en français. Verriegeltezeit, c'est l'histoire au fond de Sibylle Schoenemann qui habitait à Berlin-Est et qui, avec son mari, était empêchée de faire leur film depuis longtemps. Ils déposent alors en 1984 une demande d'émigration qui déclenche à leur insu une machine de répression infernale. Enquête dans le voisinage, écoute téléphonique, contact discret auprès des gens des studios où ils travaillent, la DEFA, c'est les studios officiels, le Hollywood Est-Allemand, jusqu'en 85, où Sibylle et son mari sont arrêtés. Une année de prison, puis 4 ans d'exil. Le mur de Berlin tombe, Sibylle remonte la filière de ceux qui ont contribué à son arrestation. Son cas personnel relève au fond l'accablante machinerie répressive au rouage humain, des gens ordinaires qui s'adaptent au temps qui change. Alors je cite quelque chose qu'elle a écrit, qu'elle a dit lors du festival. Elle a dit « J'avais besoin de cette revanche, prise sur ces individus brusquement dépouillés de leur pouvoir. J'aurais voulu qu'un seul au moment parmi eux prenne conscience du mal qu'ils nous ont fait. Mais jamais je n'ai rencontré le moindre remords, la lueur d'une compréhension, un mot d'excuse. Tous se sont abrités derrière la loi, les règlements, les supérieurs. J'aurais dû me douter que les gens qui choisissent ce genre de travail ont le caractère qui convient à l'emploi. Ce sont des gens adaptés. Ils s'adaptent aussi bien au nouveau système. »
Je crois que ce qui est très impressionnant dans le film de Sibylle Schoenemann, qui est donc un long métrage documentaire, c'est cette façon qu'elle a de débarquer avec sa caméra, son micro, clac, elle frappe à la porte de quelqu'un, elle entre, on ne sait pas très bien ce qui nous attend, qu'a fait la personne. Souvent ces gens ont l'air très, entre guillemets, normaux, et monsieur et madame tout le monde, on ne peut pas s'imaginer qu'ils ont été une fois responsables de l'arrestation de quelqu'un par leur dénonciation, par leur méthode mauvaise, empêchant Sibylle de voir sa mère, empêchant de la voir ses enfants, etc. Donc il y a quelque chose de tellement direct dans la façon dont elle a réalisé ce film, que c'est impressionnant parce que vraiment elle aurait pu se faire claquer la porte au nez par tout le monde. D'ailleurs, ça arrive quelquefois, mais d'autres fois aussi on voit à quel point l'embarras est grand quand elle débarque et qu'elle rappelle son nom et que ces gens, bizarrement, se rappellent. Ils ont dû voir défiler des dizaines et des centaines de personnes dans leur prison, ils ont dû dénoncer des dizaines et des centaines de personnes, et pourtant chaque fois qu'elle dit son nom, on se rappelle d'elle et le masque tombe et l'apparence des personnes dévoile, malgré l'émotion et la tentative de ne rien laisser trop voir, dévoile l'angoisse qu'ils ont à devoir à un moment donné se justifier sur ce qu'ils avaient fait à l'époque. Alors nous avons rencontré non pas Sibylle Schoenemann qui n'était malheureusement plus là lors de la distribution des prix. On nous a dit qu'elle était un petit peu malade, qu'elle avait un peu de peine à se remettre du fait de revoir chaque fois son film et de repenser à son emprisonnement et aux conditions difficiles qu'elle a vécues loin de ses enfants pendant si longtemps jusqu'au moment où ils l'ont rejoint en Allemagne de l'Ouest. Eh bien, mais pourtant il y a un espoir puisqu'elle se dit que peut-être pour conjurer le sort, elle va la prochaine fois réaliser un film comique, pourquoi pas. Enfin, ce qui est sûr, c'est que sa préoccupation de défense des droits de l'être humain reste dans sa tête et que très certainement, une autre fois, dans un prochain film, elle fera à nouveau quelque chose concernant cette question-là. En attendant, eh bien, nous avons rencontré la femme qui a reçu le prix à sa place, qui était là pour défendre ses intérêts. C'est Cathy Vatton, qui est en fait la distributrice du film de Sibylle Schoenemann. Et oui, Sibylle a la chance d'avoir une distributrice, ce qui n'est pas le cas de la plupart des réalisatrices qui sont là. Eh bien, nous l'avons rencontrée pour comprendre comment elle se préoccupe, elle, de distribuer ce genre de films qui paraissent si compliqués à être distribués dans des salles. Catherine Vatton.
En réalité, je travaille maintenant, je suis associée, je viens de créer une société de distribution et de production associée avec des amis allemands qui s'appellent Expicturis, qui sont aussi distributeurs et producteurs par le biais d'une autre société qui s'appelle Maxfilm et qui ont un catalogue d'à peu près une cinquantaine de documentaires du monde entier dont ils m'ont confié les droits sur tous les pays francophones et sur l'Espagne. Par ailleurs, moi, je leur donne, quand les producteurs ou les réalisateurs sont d'accord, des films français ou étrangers sur les territoires allemands et autrichiens.
Dans le cas du documentaire de Sibylle Schoenemann, vous avez la sensation qu'il va être accepté, acheté dans plein d'endroits. Quels sont les lieux que vous visez en premier quand vous cherchez à faire acheter un documentaire ?
D'abord, il a été sélectionné et il est encore sélectionné dans énormément de festivals. Je n'ai pas la liste en tête, mais là, il a été sélectionné dans une dizaine de festivals au minimum.
Cette sélection se fait par votre intermédiaire aussi, ou c'est Sibylle qui choisit ?
Non, ce sont soit les festivals qui vont eux-mêmes, enfin les sélectionneurs qui vont eux-mêmes dans des festivals et qui sélectionnent un film, et qui font donc soit appel à moi s'il se trouve que c'est sur un territoire francophone, soit Expectoris en Allemagne. Mais disons que ce film a été énormément remarqué. Par ailleurs, pour l'exploitation de ce film, il est évident qu'une sortie en salle serait tout à fait bienvenue. Là, en l'occurrence, le film a déjà été vendu à la 7, donc ça paraît un peu plus compliqué de le sortir en salle, mais pourquoi pas, en France, pourquoi pas.
Dans le sens où le passage en télévision quasiment ferme les portes du passage en salle.
Oui, parce qu'il y a cette loi qui dit que si une œuvre cinématographique sort en salle, donc à une exploitation cinématographique, normalement elle ne peut être vendue à une chaîne de télévision que 2 ans plus tard.
Et inversement, alors ?
Inversement, non, c'est pas vrai.
On a dit sur scène que tout à l'heure. C'est l'association des femmes journalistes qui a attribué ce prix à Sibylle Schoenemann pour son reportage. Est-ce que vous pensez que ça donne une valeur supplémentaire à son travail ? Parce que des journalistes reconnaissent la force de ce travail en un moment où le métier est très très contesté, suite aux événements politiques du monde, est-ce que vous pensez que ça va renforcer encore la force de son travail ?
Moi, je pense qu'elle sera très touchée par ce prix, effectivement. C'est à la fois un travail de réalisatrice... de documentaire, mais plus précisément c'est tout à fait un reportage, mais pas un reportage fait comme on peut les voir à la télévision en 8 jours. C'est quelque chose qui la touche tellement que c'est proche du journalisme, mais c'est aussi du cinéma. Je crois qu'elle sera très touchée de toute façon. Moi, je lui avais dit je pense que tu auras un prix, c'est impossible que tu n'aies pas un prix à Créteil. Et elle me disait non, je ne veux pas y penser. Je lui disais, je suis sûre. Et puis finalement, j'étais contente hier soir de le savoir très tard. Que rajouter, je suis très contente pour elle.
Ce feeling que vous exprimez maintenant sur savoir qu'est-ce qui va plaire ou pas plaire, avoir de l'importance, c'est important pour faire le métier de distributrice, choisir les films qui, à votre avis, auront des chances d'être distribués. Ou c'est sur des critères bien plus rationnels ?
Non, je crois qu'on fonctionne et c'est pour ça qu'on s'est retrouvés, donc ses amis allemands et moi-même, justement sur quelque chose de complètement irrationnel, qui est beaucoup plus sur la sensibilité par rapport à un film, la sensibilité d'un auteur, le talent, et que c'est la première des choses qui fait qu'on choisit un film. J'ai des petits bijoux qui sont très peu montrés et qui sont des films... très sensible, très talentueux, et je sais très bien que ce sera sans doute pas facile de les vendre, mais qu'en tous les cas, à force d'avoir cette exigence, les acheteurs, quand ils viennent nous voir, savent pourquoi ils viennent nous voir. Et bon, ça, c'est entretenir des relations très privilégiées que de savoir qu'il y a des gens qui vont venir nous voir parce qu'ils sauront qu'ils trouvent un type de film très précis chez Expectoris.
Est-ce que ça implique ce choix que vous venez de décrire, le fait que ces films soient achetés par des gens qui sont dans des circuits plus parallèles que des circuits commerciaux ?
D'abord, on est plus proche du cinéma que de la vidéo chez Expectoris Allemagne ou France. On aide davantage et on prend davantage en distribution des films tournés en film. C'est pas un choix esthétique, mais il se trouve que c'est pas tout à fait la même manière de travailler, sans doute. On a pas mal de films politiques, entre guillemets. Pas mal de films allemands, est-allemands, estoniens, enfin des pays baltes, qui sont des films effectivement plus politiques que ce qu'on peut trouver à l'heure actuelle en France. Je crois qu'en Allemagne... une conscience politique plus importante Et donc beaucoup de réalisateurs, et surtout avec ce qui s'est passé bien entendu, beaucoup de réalisateurs traitent de choses que les Français traiteraient de manière différente.
Et alors du coup, quel type de lieux de distribution peuvent être trouvés pour des films comme ça ?
Bon, il y a tous les festivals évidemment, il n'y a malheureusement pas en France énormément de salles de cinéma. Il y en a davantage en Allemagne qui prennent des documentaires. Donc c'est davantage des télévisions. Alors on commence à connaître un peu partout dans le monde justement ces gens qui sont plus aptes à prendre des risques de programmation.
Lásku totiž vůbec nikdy nevím.